culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h, 17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Dominique et Marie-Josée. Bonjour.
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 Vous connaissez tous le loto du patrimoine, mais savez-vous qui œuvre derrière? On en parle avec Dominique et son invité Jacques Burel. Il pleut des prix littéraires cette saison. Et pour ne pas se noyer, Marie-Josée a lu pour nous et elle nous présente sa sélection 2024. Tout de suite, on commence avec vous Dominique et c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Le patriarche du patrimoine.
Derrière Stéphane Bern et le loto du patrimoine que vous connaissez tous, il y a la Fondation du patrimoine et son logo, un carré rouge sur pointe, qui s'affiche sur un grand nombre de bâtiments anciens. La Fondation aide les propriétaires publics et privés en trouvant pour chaque projet de restauration des financements qui deviennent aussi des opportunités d'emploi, de découverte, d'éducation et de liens.
Oui Marie, la Fondation a été créée en 1996. Elle a été mise en place pour mobiliser tous ceux qui voulaient aider le patrimoine rural au-delà des monuments historiques qui sont depuis longtemps identifiés par le ministère de la Culture. Depuis, son action s'est bien sûr élargie, mais 80% de ses projets sont encore situés dans les territoires ruraux. Et nous avons donc le plaisir, comme vous l'avez annoncé, de recevoir Monsieur Jacques Burel. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Burel, vous vous dépensez chaque jour pour ce patrimoine bâti, délaissé, abandonné, ce petit patrimoine qui, il y a encore une trentaine d'années, n'intéressait personne. J'aimerais commencer par retracer un peu l'histoire de cette fondation. Donc je disais 1996, juillet, c'est la création de la fondation. Alors qui sont les auteurs de ce magnifique projet?
Les auteurs de ce magnifique projet, c'est Jean-Paul Hugo, qui à l'époque était maire de Saumur, qui, avec l'aide de Jacques Toubon, ont lancé la Fondation du patrimoine. Et la Fondation du patrimoine a débuté donc à Saumur, en Maine-et-Loire.
C'est voilà. Donc une initiative parfaitement angevine.
Complètement angevine.
Complètement angevine.
Vous allez voir aussi dans la suite que on est très fort les angevins pour créer des choses puisque quelques temps après on créera un club de mécènes.
Donc c'est aussi j'imagine la première délégation en France de cette fondation.
Voilà, c'est la première délégation qui a été créée en France. Maintenant, la Fondation du patrimoine est présente dans tous les départements français et dans les territoires d'outre-mer également. Voilà, donc on couvre tous les départements français.
Et donc, Jean-Paul Hugo a installé la fondation, bien sûr, à Saumur, puisqu'il en était le maire.
Oui.
Il a, pour ça, réservé des bureaux, je crois, à l'époque au château.
Tout à fait.
Château de Saumur, pour accueillir la première délégation départementale.
Voilà, la première délégation départementale qui était dirigée par Jacques Lafaille, voilà, à Saumur.
Et donc actuellement, vous êtes plutôt angevin,
alors, Angers. On est complètement angevin, puisque la fondation est installée rue de Frémur, aux archives départementales, à côté des archives départementales. Donc on est bien angevin. Et on a amené à Angers aussi la direction de la région des Pays de la Loire.
D'accord.
Dans ses bureaux.
Donc, rue de Frémur, c'est un grand pôle patrimonial pour l'ensemble du département.
Exactement.
Très bien. La première mission de la Fondation du patrimoine, c'est la labellisation des projets privés. Alors, racontez-nous en quoi cela consiste.
Voilà. Alors, ça consiste... Donc, les propriétaires privés nous présentent les dossiers de restauration de leurs bâtiments. Et puis, une fois qu'on a présenté le dossier à l'architecte des bâtiments de France et qui donne ses prescriptions, on labellise le projet et ça permet aux propriétaires privés de défiscaliser 50% du montant de leurs travaux pour restaurer leur bâtiment.
Donc j'imagine que pour visiter tous ces chantiers, il y a un certain nombre de bénévoles de la Fondation qui, sur le département, se déplacent pour aller voir sur place la qualité du projet, l'intérêt du projet et je crois aussi peut-être même sa visibilité.
Voilà. Alors, pour être labellisé Fondation du patrimoine, il faut absolument que le bâtiment soit visible de la voie publique. Alors, ça peut être un fleuve, hein, ça peut être un chemin communal, une route, bien sûr, mais c'est indispensable. Alors, on a donc une équipe de bénévoles importante, puisque sur le département, on a près d'une trentaine de bénévoles qui se répartissent tout le département. Ils ont un secteur. Donc, on les appelait des délégués de pays, on les appelle maintenant des délégués territoriaux. Et ils sont accompagnés d'un conseiller technique qui vient en appui pour suivre la partie architecturale du dossier.
Alors, ces dossiers, ça concerne quoi ? Des restaurations de façade, j'imagine ?
Alors, ça concerne principalement des restaurations de façade, de toiture, de murs d'enceinte,
De portails sur rue.
De portails, ouais. de d'huisseries.
De menuiserie.
Voilà. Ouais. Mais pas d'intérieur.
D'accord. Combien de projets par an dans cette action de labellisation ?
On fait à peu près une quarantaine de projets par an.
Donc, les projets sont d'abord regardés par les délégués de pays.
Voilà.
Puis ensuite soumis à l'avis de l'architecte du bâtiment de France.
Complètement.
Qui, en tant que représentant du ministère de la Culture, va labelliser le projet.
Va labelliser et, dans certains cas, donner des prescriptions que l'on soumet aux propriétaires afin qu'ils corrigent un petit peu leur dossier.
Deuxième mission principale de la Fondation du patrimoine, ce sont les projets publics et associatifs. Alors ça, c'est plus récent que la labellisation des projets privés. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi ?
Alors là, les collectivités locales ou les associations prennent contact avec la Fondation du patrimoine s'ils ont par exemple un projet de restauration d'église ou de lavoir. Ou même avec les associations, on a même travaillé sur des restaurations de bateaux et d'avions. Voilà. Donc là, dans le cas présent, on lance une souscription et on collecte des dons qui vont être reversés à la collectivité locale ou à l'association.
D'accord. Je me souviens, autrefois, on parlait à la Fondation du patrimoine du pigeonnier de Soucelles. Est-ce que celui-ci va sortir de jour ?
Je ne sais pas s'il va sortir un jour. C'est un vaste dossier depuis très longtemps. Et bon, il y a des contraintes techniques. Et puis, il faut aussi des possibilités du propriétaire sur ce pigeonnier. Ça n'a pas beaucoup avancé pour le moment.
Évidemment, il faut que le propriétaire soit un moteur aussi dans tous les projets.
Voilà. D'ailleurs, tous les projets des collectivités locales, les restaurations d'églises par exemple, ou de lavoirs, il faut absolument que la collectivité soit très active pour inciter, bien sûr, les dons des particuliers, voire aussi des entreprises.
Donc il y a une campagne d'affichage, j'imagine, qui se fait localement pour inciter les gens à venir donner un peu de leur disponibilité financière pour participer à la restauration de ces édifices.
On leur édite d'ailleurs des petits bons de souscription qui vont leur permettre de donner à la population, aux entreprises, de façon à inciter les gens à donner, puisque tous ces dons sont défiscalisés à 66%.
Alors, dans ce chapitre projet public et associatif, il y en a un qui est un peu exceptionnel dont vous m'avez parlé. Il s'agit du temple de Saumur.
Ah oui, ça c'était une belle expérience puisque ce temple de Saumur, on a bénéficié du loto du patrimoine et on a eu aussi la chance énorme, c'est que on a négocié pendant le Covid avec les États-Unis et une fondation protestante aux États-Unis qui nous a donné 300 000 dollars. Ah oui. Alors, on avait déjà récolté 300 000 euros par le loto du patrimoine, donc les 300 000 dollars étaient bienvenus. Faut dire les choses, c'est que le monsieur qui nous a aidés et a rapporté ce don de la Fondation protestante aux États-Unis est originaire de Saumur.
D'accord.
Voilà.
Non, vous avez bien travaillé. Je rappelle juste que c'est l'œuvre de l'architecte saumurois Charles Joly-Leterme, dont nous avons plusieurs fois parlé ici.
Oui.
Troisième chapitre, Club Mécène. Ça, c'est 2010. Alors, en quoi consiste ce club mécène ?
Alors, je disais tout à l'heure qu'on était un peu pionniers dans le Maine-et-Loire.
Très bien.
Le premier club de mécène de la Fondation du patrimoine a été créé à Angers donc, on en parlera tout à l'heure, avec, à l'initiative de François-Xavier Gourdon, qui était mon prédécesseur donc à la délégation du Maine-et-Loire. Et donc, on a apporté, aujourd'hui, on doit être à 16 ou 17 mécènes qui donnent une contribution tous les ans et ils choisissent des projets sur lesquels ils vont verser leur don. Hein, donc, et ça fonctionne très bien.
D'accord. Donc le groupe des mécènes se réunit et distribue l'argent qui est collecté.
Voilà. Donc on a environ 3 à 4 réunions par an. Et on leur présente des projets. Alors, ça peut être des projets d'église, ça peut être d'autres projets. Ils ont participé, entre autres, à la restauration du Moinet, l'avion Moinet, au musée de l'aviation d'Angers-Marseille.
Oui,
voilà.
Oui.
Et ils ont participé aussi à Chalonne, au gabarit de Chalonne.
Bon. On peut citer quelques-unes de ces entreprises pour inciter les autres à venir vous rejoindre ?
Alors, on se connaît depuis longtemps, Monsieur Latron. Vous saviez que j'étais chez Baudet. Donc, il y avait, dans les premiers mécènes, il y avait eu l'entreprise Baudet, il y a eu l'entreprise Atmosphère, il y a eu, en Saumurois, il y a eu Langlois.
Hein, bien sûr,
les vins, et puis, il y a eu Combier. Voilà. Et puis, on a également des notaires. On a des entreprises comme Rock Confortation. On a Ritway. On a la menuiserie de Laubance.
Artisans et entrepreneurs aussi.
On a des artisans et des entrepreneurs, des notaires.
Oui,
donc,
oui,
voilà.
Oui.
Donc, un beau club et qui fonctionne très bien. On s'est réunis dernièrement. Là, on a fait des choix de projets. Voilà.
Quatrième chapitre, ça c'est le gros du sujet, c'est le loto du patrimoine. Ça c'est encore plus récent, c'est 2018.
C'est 2018.
Alors racontez-nous l'aventure Stéphane Bern.
Ben, l'aventure Stéphane Bern, on a eu une chance énorme, c'est qu'on a été retenu. Alors vous savez que dans la notion de loto du patrimoine, on a deux types de projets. On a un projet par département et puis un projet par région. On a eu la chance avec le tribunal de Beaugeais d'être à un projet donc régional qui a permis donc à la mairie de Beaugeais de récolter 500 000 euros.
Oui.
Voilà, donc ce qui était quand même une jolie somme. Le temple protestant de Saumur,
c'était
un peu moins, c'était 300 000 euros. Dernièrement, on a eu le moulin de Brissac, dont la propriété est Philippe Cowell. Ça, c'était un beau projet. Donc, on a des projets régulièrement.
Au plan national, le taux du patrimoine, ça représente quelle somme ?
Exactement, là, vous me posez une colle.
Non, excusez-moi.
Mais je ne sais plus si... c'est plusieurs dizaines de millions d'euros.
Oui. Ouais. Ben, c'est quelque chose dont tout le monde entend parler, évidemment.
Voilà.
Et c'est très bien pour le patrimoine. Cinquième chapitre, collecte de fonds pour le patrimoine religieux. Ça, c'est un événement que vous avez créé il y a 18 mois, je crois.
Il y a 18 mois. Ben, c'était quand même à l'initiative du gouvernement.
Oui. Alors, en quoi ça consiste ? Parce que vous avez ne pas comprendre.
On présente des dossiers donc sur le patrimoine religieux, donc une église par département. Et le gouvernement, l'État attribue une somme. Dans le cas présent, ça a été l'église de Trémentine qui a donc obtenu 100 000 euros.
D'accord.
Voilà, au titre du patrimoine religieux.
D'accord.
Ça fait suite quand même un peu à l'opération de Notre-Dame dont tout le monde a parlé. Et donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait récolter de l'argent pour le patrimoine religieux.
D'accord. Donc ça, ce sont des fonds qui viennent directement de l'État.
De l'État, mais qui viennent aussi des dons.
Ah oui, et les deux.
Voilà, qui viennent des dons. Bon, Notre-Dame, il y a eu énormément de dons, mais on a aussi des dons sur le patrimoine religieux.
D'accord.
Et ces dons sont gérés toujours par la Fondation du patrimoine.
D'accord. Très bien. Autre chapitre aussi, vous avez des subventions exceptionnelles du département de Maine-et-Loire,
oui,
ainsi que de la ville de Cholet. Alors, qui redistribue ces sommes qui sont attribuées à la Fondation du patrimoine ?
Alors, ces sommes, on les redistribue aux propriétaires.
Mais il y a un comité.
Mais on fait ça avec le comité, avec la conservation du patrimoine du département.
D'accord.
Voilà. Dans le cas de la ville de Cholet, c'est un petit peu différent. C'est nous qui attribuons directement les sommes qui nous sont données.
D'accord.
Voilà.
Monsieur Burel, maintenant, j'aimerais qu'on parle, en fait, de la structure au plan national. Je crois qu'il y a un nombre très important de salariés maintenant qui font tourner cette jolie machine.
Alors, il y a maintenant, au niveau national, un peu plus d'une centaine de salariés. Et si on regarde le nombre de bénévoles, on est plus de 1000 bénévoles à la Fondation du patrimoine. Sachant que notre président souhaiterait qu'on arrive à doubler ce nombre de bénévoles et à passer à 2000, de façon à être plus efficace et à être encore plus présent sur le terrain.
D'accord. Bon. C'est pas la même musique. Hein.
Ah non. Bon. Non.
Tous les départements sont-ils pourvus ou il y a encore des taches blanches au français ?
Tous les départements sont pourvus, y compris dans les territoires d'outre-mer.
Ah oui, tous les départements.
Tous les départements
ont une fondation du patrimoine, une délégation.
Voilà, qui n'ont pas forcément la même importance que celle du Maine-et-Loire. Mais il peut y avoir que quelques membres, mais tous les départements sont pourvus.
Jacques Burel, vous nous parlez des 2000 bénévoles. Pour l'instant, ils sont 1000. Ça peut intéresser nos auditeurs. Il faut avoir quelles compétences pour être bénévole à la Fondation du patrimoine ?
Il faut simplement être passionné du patrimoine. Voilà. On ne demande pas de compétences particulières, sauf pour ceux qui sont...
Vous formez un peu quand même les personnes ?
On leur met...
On les
parraine. On les forme au niveau du siège, hein. On a, un service formation au niveau du siège, hein. On travaille en visioconférence et on a aussi un appui sur le terrain, des bénévoles qui sont là présents depuis déjà quelques années, qui viennent appuyer les nouveaux.
Il y a aussi une délégation régionale de la Fondation du patrimoine, donc en Pays de la Loire, et je crois même qu'elle siège à Angers, non ?
Oui, donc le délégué régional, c'est Jean-Pierre Bossier,
ancien entrepreneur.
Entrepreneur que je suis allé un petit peu chercher quand il a quitté son entreprise. Je lui avais dit, Jean-Pierre, ça serait bien que tu viennes nous rejoindre à la Fondation du patrimoine. Et il a pris la direction régionale de la Fondation du patrimoine.
Quel est son rôle
Comme tous les délégués régionaux, il anime les 5 départements des Pays de la Loire. Donc il nous suit, il regarde ce que l'on fait, le travail que l'on mène sur le terrain. Et voilà, et on fait des points régulièrement.
Donc il coordonne et il anime.
Il coordonne et il anime.
D'accord. J'aimerais qu'on parle maintenant des plus beaux projets de la Fondation. On a parlé du tribunal de Baugé. Ça, c'est un joyau architectural de la ville de Baugé.
Oui.
Il est au bout de cette grande place sur laquelle il y a le château.
Oui.
Il est devant l'ancienne prison qui a été reconvertie en centre culturel il y a une vingtaine d'années.
Oui.
C'était un lieu complètement abandonné. Qui n'avait pas trouvé de fonction ni de réutilisation. Ça a été une révélation pour tous les habitants de la région de redécouvrir ce bâtiment, j'imagine.
Ça a été une révélation. Et puis, le maire de Baugé a vraiment œuvré beaucoup pour qu'on restaure son tribunal. Et c'est une magnifique réussite. D'ailleurs, j'ai animé aux Journées du patrimoine un stand de la Fondation du patrimoine à Baugé, devant ce tribunal.
Le temple de Saumur, on en a parlé, donc c'est l'église protestante de Saumur. C'est un petit bâtiment, c'est l'église de la Madeleine en modèle réduit.
Exactement.
Un petit temple grec avec colonnade.
Exactement, donc c'est vraiment très particulier dans les temples protestants. Je crois que le temple de Saumur est unique en France. Hein. Je ne connais pas d'autres temples qui aient ce format, cette architecture-là.
Moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est qu'il n'y a aucune ouverture sur l'extérieur. Donc
L'éclairage vient du plafond, et puis de la croix qui a été réouverte dans le cadre de la restauration de ces travaux, la croix qui était donc dans le chœur, on l'a réouverte et donc elle apporte de la lumière.
Ouais, très très bien. Une de vos grandes réussites, vous m'avez dit aussi, le moulin du pavé à Brissac.
Le moulin du pavé à Brissac. L'ancien maire de Brissac, Philippe Cowell, a donc racheté ce moulin pour pouvoir, en vue de le restaurer. Et il a donc aidé par la Fondation du patrimoine et par le loto du patrimoine.
Donc ça, c'est un projet communal.
Les Angevins le connaissent, ce moulin, puisqu'il fait partie d'un groupe de moulins où il y avait 12 moulins sur cette route. Il n'en reste plus qu'un. Et le projet de Philippe Cowell, il faut reconnaître que c'est une belle réussite.
Il est situé le long de la route départementale, donc chacun peut le voir.
Oui, avant qu'il y ait la déviation, tous les Angevins, moi j'ai été pensionnaire à Angers quand j'étais enfant, et mes parents habitaient Thouars, et on passait toujours devant ce moulin pour aller à Angers en venant de Thouars.
Quel charpentier qui a restauré ce moulin? Parce que ça, c'est un travail très particulier.
Oh, je ne sais plus le nom exactement.
On a parlé ici à Radio Campus il y a quelques temps de l'abbaye de Nivoiseau avec ses deux nouveaux propriétaires. Ça, c'est aussi une magnifique réussite de la Fondation, j'imagine.
Ah oui, c'est une magnifique réussite. Et puis, les deux propriétaires ont vendu leur appartement parisien pour pouvoir s'acheter l'abbaye de Nivoiseau. Et ils ont un beau projet culturel sur cette abbaye, puisqu'ils veulent en faire un lieu d'exposition et recevoir des artistes également.
Un des derniers projets aussi que vous avez soutenu, c'est l'abbaye du Ronceret à Angers. On est au milieu de la Doutre.
Voilà.
Une abbaye un peu abandonnée par la ville depuis déjà quelques temps. Et vous avez été un ressort extraordinaire pour faire renaître ce très beau bâtiment.
On a agi avec la ville pour les inciter à faire la restauration de ces deux porches sur l'abbaye du Ronceret. Voilà.
D'accord, donc
j'ai signé la souscription avec le maire d'Angers, et donc on a lancé les opérations de collecte de fonds.
D'accord. Donc vous vous intéressez à la fois au petit patrimoine rural et particulier, mais aussi à des grandes opérations comme celles que vous venez de citer.
Voilà.
On aura du mal à terminer cette émission sans parler de François-Xavier Gourdon. Il est malheureusement décédé cet automne. Il a été le délégué départemental pendant une dizaine d'années. Je crois qu'on lui doit... Il a fait un travail magnifique, me semble-t-il.
François-Xavier Gourdon a fait un travail énorme. C'est lui qui a contribué au développement de la Fondation du patrimoine en Maine-et-Loire. Et c'est grâce à lui qu'on a créé le Club des mécènes en Maine-et-Loire. Et après, on est venu le copier, j'allais dire, s'inspirer du travail qu'il a mené en Maine-et-Loire pour d'autres départements.
Merci beaucoup Jacques Burel pour tout cet échange. Bien sûr, on retrouve facilement la Fondation du patrimoine sur Internet et plus précisément pour les particuliers sur portailpatrimoine.fr.
Voilà. Et vous pouvez toujours faire des dons sur fondationdupatrimoine.org.
Bien sûr,
voilà.
Vous avez bien raison.
Et il n'y a pas de petits dons. Hein, 10 euros, c'est déjà un don.
Jacques Burel, Dominique, merci pour ce panorama de la Fondation du patrimoine sur France Culture. On écoute maintenant Thomas Dutronc, Il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard, dans la nuit sonnent les guitares. Demain nous paierons le prix de nos folies. La chaleur de ta peau, la chanson douce de l'oiseau, la voilà la vie, celle qu'on aime à nouveau. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini, et tes yeux sont comme deux miroirs. Pour pardonner, se dire je t'aime, pour faire de ce long voyage un poème. Ce soir nous sommes unis par des mélodies qui résonnent. La voilà la vie, celle qu'on aime, celle qu'on donne. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini dans les yeux de celui qui sait.
France Culture, la curiosité sous toutes ses coutures.
Vous êtes toujours sur Radio Campus France Culture. Alors, les prix littéraires ont été décernés et ils sont très nombreux. Lesquels choisir? Pas de panique, Marie-Josée est avec nous. Elle nous a fait une petite sélection.
Le lauréat 2024 du prix littéraire envoyé par la Poste est Anatole Édouard Nicolau. Et le roman primé a pour titre « À l'ombre des choses », édité chez Kalman Lévy. Il faut savoir que la Fondation de la Poste décerne ce prix depuis 10 ans à un primo-romancier. C'est d'ailleurs un révélateur de talent, puisque Jean-Baptiste Andréa, Goncourt l'an dernier, avait reçu ce prix de La Poste en 2017. Notons aussi que l'Anjou est un bon terreau littéraire, puisqu'en 2015, un Angevin a été leur premier lauréat. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'Anatole Édouard Nicolo est Angevin de naissance.
Bon, alors le plus intéressant, parlez-nous du roman d'Anatole.
Dès la première page, on est en terrain connu. J'ouvre les guillemets. « J'étais donc là, un enfant moyen dans une ville moyenne, avec, au cœur de la ville, un château fort. Un vieux truc du XIIIe siècle, moyenâgeux, 17 tours, hautes d'une trentaine de mètres. Mais les touristes n'avaient Dieu que pour la tenture de l'Apocalypse, un ensemble de tapisseries médiévales, unique au monde. Ça donnait un peu de fierté à la ville moyenne. Je ferme les guillemets. Marie, avez-vous deviné où nous sommes ?
Bah, au hasard, je dirais Angers.
Oui, cette ville moyenne, c'est Angers. Le narrateur y a grandi, dans une belle maison, avec des parents artistes, dans le rire et les mélodies. Puis, le divorce de ses parents fait tout basculer, dans un déclassement social douloureux. Ballotté entre un foyer social chez leur mère et dans un squat chez leur père, deux frères voient leur innocence s'évaporer. Pourtant, une chose demeure, c'est l'amour que se voue chaque membre de cette famille brisée. Dans le quartier Montplaisir, ils vivent une période à l'ombre d'une société, je cite, « bourgeoise et catholique », avec pour combat la honte et la pudeur d'être pauvre. Le frère aîné se rend à Paris et devient un rappeur populaire sous le nom de Giorgio. Marie, vous connaissez Giorgio, m'avez-vous dit ?
En fait, pas tellement, mais j'en ai entendu parler. Il s'est produit à Angers, il me semble.
Anatole part d'Angers vivre chez ce frère à Paris et trouve un travail précaire de distributeur de flyers. Il s'ennuie à Paris. Jusqu'au jour où il rencontre Camille, riche mais malheureux.
Alors pourquoi ce titre à l'ombre des choses ?
Anatole explique dans une interview qu'il vit à l'ombre de la société dans un foyer social, puis à l'ombre de son frère, puis à l'ombre dans son travail précaire. Mais la littérature sauvera Anatole de l'ombre. C'est renversant.
Alors pourquoi vous avez choisi ce livre parmi tous les prix de la rentrée ?
Je trouve ce premier roman empreint d'une grande sensibilité. Il m'a fait chavirer durant les 150 pages. Anatole Édouard Nicolo, paumé et marginalisé, dépeint la vulnérabilité, la fragilité d'une population invisible qui ne laisse personne indifférent. La dernière page, celle des remerciements, est la plus émouvante que j'ai jamais lue. Directe, elle perfore le cœur.
Alors Marie-Josée, un deuxième coup de cœur littéraire.
Cette année, parmi les nombreux prix littéraires, on ne compte que trois femmes, dont Julia Deck, qui a écrit un roman autobiographique intitulé « Anne d'Angleterre », publié au Seuil. Elle obtient le prix Médicis.
Le titre annonce-t-il un lien avec Anne d'Angleterre, Marie-Jo ?
Non, Anne, sans E dans le roman, c'est sa mère, qui est anglaise de naissance, mariée à un Français et qui vivra en France, où l'autrice, Julia Deck, est née.
Alors c'est un roman personnel, autobiographique, de quoi s'agit-il ?
Un jour, en avril 2022, Julia Deck trouve sa mère, 85 ans, inanimée dans sa salle de bain. Elle est victime d'un accident cérébral. Comme elle n'a pas été prise en charge rapidement, ses chances de survie sont infimes. Eh bien non, la patiente, au grand étonnement des médecins, vit. Diminuée, mais elle s'accroche à la vie. Le problème, c'est que l'hôpital somme Julia Deck, deux jours après l'AVC, de vite vite trouver un établissement de soins pour sa mère. Commence alors un long cheminement pour un placement dans une maison spécialisée. L'autrice nous fait alors partager son parcours hallucinant qui reflète la situation catastrophique du service public en France. Comment trouver son chemin dans la bureaucratie de la santé ? Que disent les médecins dans leur jargon ? Comment trouver un endroit pour les gens qu'on aime ? Il ne reste comme solution que les institutions privées, qui ressemblent à des agences immobilières. En parallèle, Julia Deck raconte la vie de cette femme, issue d'une famille ouvrière passionnée de littérature, qui s'est élevée socialement, qui est venu habiter en France et qui entretient un rapport complexe avec sa famille d'Angleterre. Car au milieu de son histoire, Julia décèle une étrangeté, peut-être un secret, plus exactement un point aveugle dans le récit de sa filiation. Mais à cette interrogation, seule sa mère pourrait répondre. Or, elle n'a pas retrouvé l'usage de la parole. Le lecteur est en haleine avec ce secret. Un texte splendide qui questionne les liens entre l'écriture et la vie. C'est aussi un geste d'amour bouleversant d'une fille envers sa mère. Le tout sur un rythme vif et non dénué d'humour british.
Merci Marie-Josée pour ces deux coups de cœur littéraires de la rentrée 2024. On a été un peu long aujourd'hui, c'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture, tous azimuts en Anjou. Merci à Sylvain pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h. Et bien sûr, en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.